Deuxième partie. C'était, croyait-on généralement, pour couper court à toute une suite de sentimentalités pénibles, que le baron de Meringis, fuyant à la fois Paris et les villégiatures à saison mondaine, s'était déterminé à céder au goût secret qu'il avait senti naître en lui pour le repos, la solitude et l'oubli. Était-ce de son propre mouvement? Était-ce sur le conseil de quelques sages guérisseurs de peine? On l'avait vu rechercher avec soin une localité qui se trouvait dans certaines conditions, les plus importantes selon lui, telles par exemple que de ne lui rappeler en rien ce qu'il quittait, mais de n'être pas non plus trop éloigné de la capitale à cause de la répugnance vive que lui avaient toujours inspiré les patois difformes et les accents de terroir trop prononcés. Un coup d'œil sur une carte et quelques réminiscences aidant, son choix l'avait amené vers une jolie ville qui, tenant à la fois de l'Île-de-France et de la Picardie, gardait maintes affinités parisiennes, tout en comptant déjà comme un séjour de province suffisamment marqué. Un banlieue de Paris, 20 000 habitants, 2 cercles, une garnison, passage périodique et fréquent de touristes sollicités par l'attrait des plages de la baie de la Somme, toute proche, c'est dans cette vieille et gothique préfecture de Beauvais en Beauvaisis, aux monuments pieux, aux souvenirs guerriers, aux faubourgs tout palpitants de vie manufacturière, c'est dans cette sympathique et plaisante cité que, 7 années auparavant, lieutenant avant sa démission, il avait vécu 2 hivers de suite. Et c'est là qu'il était revenu, ayant toujours gardé une prédilection très vive pour ce coin de terre gauloise, si riant et si doux, pur, bon et gai comme le style de Gérard de Nerval, qui en fut le poète ému et sincèrement pénétré. Le baron de Meringis, nature droite, simple et fine à la fois, ne participait en rien aux snobismes artistiques et poétiques alors à la mode. En revanche, il possédait instinctivement un sens très délicat de tout ce qui fait la beauté de la vie, dans les arts comme dans la nature. Par goût, il s'était élevé et instruit lui-même dans le culte de ce lyrisme sincère et charmant qui florissait vers la fin du XVIIIe siècle et qui fut pour la meilleure part dans le génie des grands philosophes et des grands écrivains de cette époque enthousiaste. C'était donc plutôt son affection toute littéraire pour cette contrée gentille que l'espoir d'y retrouver quelques épaves de sa carrière militaire qui lui avait désigné ce refuge favorable. D'ailleurs, comme il l'avait prévu, et sans avoir même consulté l'annuaire, il avait trouvé des détachements de régiments nouveaux remplaçant dans les 3 casernes le corps de troupes dont lui-même avait fait partie et qui avait définitivement permuté. Nous avons déjà fait connaissance avec l'intérieur qu'il s'était choisi dans un quartier qui ne fut ni trop de la ville, ni trop du faubourg, mais entre les deux, pas très éloigné du centre citadin, et d'où cependant, rien qu'en ouvrant sa fenêtre, il pouvait sentir la proximité de la pleine campagne. Il n'avait voulu ni d'une maison indépendante, ni même d'un pavillon, et s'était décidé pour l'appartement du rez-de-chaussée d'une pension de famille à table d'hôte, et qui avait pour clientèle ordinaire des familles de fonctionnaires de passage, agents en tournée, inspecteurs en visite, ou des officiers de réserve en période d'exercice. Là, il avait aménagé le plus modeste des bagages de garçon, sa bicyclette, son chien, ses livres favoris, quelques gravures familières et un piano. En s'installant, il avait congédié son valet de chambre et laissé son chez-lui parisien à la garde d'un concierge pour ne traîner avec lui nul embarras de mobilier ni de domestique. Sur de telles données, son plan de vie s'était organisé très promptement, modeste et sage, mi-rustique et mi-bourgeois, ni mondain ni sauvage. D'ailleurs, il n'entrait aucunement dans ses vues de cuver sa misanthropie dans l'hermétisme, non plus que de vivre en anachorète rigoureux. Se trouvant, sans avoir voulu l'éviter, en terrain de vieille connaissance, il n'avait pas plus cherché les relations qu'il ne les avait évitées. Il ne s'était pas davantage refusé à être reconnu par quelques notabilités indigènes, fréquentées jadis plus ou moins sympathiquement. Il avait accepté les quelques invitations qu'il avait aussitôt guettées, rendant courtoisie pour courtoisie. Puis, si ses anciens compagnons de régiment n'étaient plus là, il n'en avait pas moins été signalé par de vieux amis de promotion, des camarades de Saint-Cyr. Il lui avait fallu se lier avec le nouveau corps d'officiers qui tenait la place et se laisser prier à leur messe. En retour, il s'était astreint de bonne grâce à traiter, 2 fois par semaine, régulièrement et suivant un tour de rôle, ses anciennes et ses nouvelles connaissances. Ses obligations facilement acceptées ne lui pesaient en rien, car elle ne prenait de son temps que la part qu'il leur avait d'avance et volontiers sacrifiée. Pour n'être absorbé ni entamé par ses petits devoirs de société, il savait se maintenir sur un pied d'affabilité banale, sans sèche réserve, mais aussi sans la moindre prise d'intimité. Quotidiennement levé tôt, il s'adonnait à de longues flâneries parmi les vastes et belles plaines où serpente la route de Clermont, emportant quelques livres ou son bloc d'aquarelle, et ne rentrant que tard pour déjeuner quand il n'avait personne à recevoir. Ensuite, la plupart des après-midi, quand les chemins étaient possibles, il partait à bicyclette et pédalait fervemment vers de lointains hameaux, poussant jusqu'aux environs de Senlis, de Creil ou de Pontoise, soupait seul sous quelques tonnelles de primitives guinguettes, puis, régulier, regagnait son gîte à la tombée du soir. Jusque vers minuit, sauf invitation en ville, il se montrait à l'un des deux cercles pour la lecture des revues et des journaux, battait deux ou trois écartés secs ou poussait quelques jetons sur le tapis du baccarat traditionnel et médiocre, après quoi, la journée de 16 heures faite, la cervelle libre et le cœur tranquille, il retournait à son lit. D'intrigues ébauchées, aucune. Quelques belles personnes de la cité picarde, objet de ses anciens flirts, avaient vieilli ou passé l'âge où il aimait aimer. Les nouvelles jeunes mariées, jeunes veuves ou jeunes filles ne l'intéressaient pas. Du reste et avant tout, cette retraite du baron de Meurangis avait été fondée sur l'idée bien arrêtée et la ferme volonté de s'épargner et de s'interdire toute vaine secousse. Était-ce qu'il cuva réellement un vieux chagrin ou qu'il eût à se défendre contre les rechutes redoutées de quelque sentimentalgie? À bien considérer ce garçon robuste et sain, dont le tempérament de parfait équilibre attestait toutes les supériorités mâles d'une raison bien assise, d'une volonté à toute épreuve et d'un réel empire sur soi-même, on ne prévoyait pas qu'il dût connaître jamais ses abandons éperdus, ses abdications de toute foi et de toute espérance qui jettent les natures romantiques en des débâcles finales et lamentables à la Shelley ou à la Baudelaire. Apparemment, il n'y avait rien d'absolument grave ni d'irrémédiablement douloureux en son cas. Seulement, il devait garder un peu de rancune et de mauvaise humeur contre une fatalité quelconque, laquelle d'ailleurs, et selon toute apparence, devait être tout simplement celle-là même que l'on nomme couramment l'éternel féminin. Sa dernière et récente histoire de mariage avorté s'était trop brutalement dénouée et d'une façon trop anormale pour ne pas l'avoir laissé un peu décontenancé et vexé. Sa fierté portait visiblement la peine de l'imprudence qu'il avait mis à ne pas prendre suffisamment au sérieux, et en temps voulu, sa condition de fiancé. L'événement avait été diversement connu et commenté à Paris. Dans divers coins de salon, on avait volontiers compté que certaines trop légères intrigues, ébauchées en marge des résolutions hyménéennes du beau baron, avaient fâcheusement tourné et causé, mal à propos, un peu de scandale. D'où cancan, bisbille et rupture. Ailleurs, on avait précisé davantage. Il avait été rapporté, par des rumeurs extrêmement informées, que l'objet de la trop légère intrigue était la même personne qui s'était entremise au début pour négocier le mariage, étant parente et même en quelque sorte tutrice de la fiancée. Les rumeurs les plus médisantes n'avaient du reste qu'effleuré la réputation de la dame en question, qu'une retraite opportune et précipitée avait heureusement mise hors d'atteinte avant qu'aucune calomnie ait pu la viser. Et de ce fait, l'intrigue sentimentale, si malencontreusement parallèle à l'intrigue matrimoniale, avait, tout en causant l'effondrement de celle-ci, péri du même coup dans le même éboulement. Faute de mieux, c'est avec les rumeurs de salon qu'on écrit l'histoire. C'est donc en s'en remettant à elle que l'on peut expliquer, le plus naturellement, l'attitude mécontente et boudeuse qu'avait prise Maurice de Meurangis pour quitter brusquement Paris et se retirer à Beauvais comme en un ermitage expiatoire et réparateur. Ainsi, après s'être attaché avec une simultanéité regrettable à ces deux poursuites, si contraires d'une épouse à droite et d'une maîtresse à gauche, il s'était, succombant à la mauvaise fortune, retrouvé comme l'écuyer entre deux selles, l'assiette par terre, et laissant échapper de ses deux mains surprises l'une et l'autre à la fois de ses deux jolies proies trop concurremment convoitées et trop maladroitement agrippées. Maintenant, est-il nécessaire d'ajouter que si Maurice de Meurangis était homme à ne pas porter trop longtemps le deuil d'un mariage manqué, son imagination et son amour-propre supportaient moins gratuitement et moins volontiers le mécompte d'une libre passionnette brisée avant d'avoir abouti. Sans doute, en homme d'expérience et de bon sens, il avait pu raisonnablement regretter les cheveux blonds, les rentes solides, les clairs yeux ingénus, les vignobles tourangeaux, les fermes angevines, la taille svelte et tous les trésors naturels ou d'auto de la très exquise Madame Anna Després, qui s'était si subitement dérobée au moment de devenir baronne. Mais combien plus intense et plus cuisante sa confusion d'avoir reçu le sec et dur congé de l'autre, de cette rousse et blanche comtesse Daria de Camaro tant espérée, si violemment désirée, frôlée de si près et si tôt échappée. Les deux maisons de Mérangis et de Camarode, étant quelque peu parentes, et surtout rapprochées par de récentes alliances des deux rangs, Maurice et Daria s'étaient connus dès l'enfance. On les eût assurément fiancés pour peu que la vocation leur en fût venue manifestement. Mais comme il semblait n'exister entre eux que de la bonne amitié sans plus, on les avait laissés grandir ensemble sans rien prévoir pour l'avenir. Bientôt les années de collège et de couvent les avaient séparés. Après quoi le service à Saint-Cyr et au régiment avait tenu Maurice presque constamment éloigné. Chaque fois qu'ils s'étaient retrouvés, ils s'étaient traités familièrement et cordialement, s'accordant gaiement de goût et d'esprit, mais sans que jamais, de leur causerie de bons camarades, il ressortît rien qui ressemblât à de l'amour. Durant 2 années, Maurice avait été envoyé comme attaché militaire à la légation de Madrid. Lorsqu'il avait reparu, Daria n'avait pas changé de nom, mais elle n'était plus libre. On l'avait mariée à un proche cousin, le comte Janin de Camarode. Maurice de Mérangis, loin de montrer le moindre trouble en présence de ce fait accompli, s'était au contraire empressé de féliciter la jeune femme devenue très vite une très brillante mondaine. De son côté, Daria ne lui avait pas caché combien elle était reconnaissante à son mari qu'il fût parfait pour elle et s'appliqua tendrement à la rendre heureuse. À peine apparue dans le monde parisien, au bras de M. de Camarode, moins jaloux encore que jalousé, la gracieuse comtesse avait été signalée comme une étoile de première grandeur, et tout de suite on l'avait vue monter au zénith, primant toute rivale, défiant toute critique envieuse. Mais ce lever d'astre avait été bientôt suivi d'une brusque éclipse. Monsieur de Camarode avait été tué dans un accident de chasse. Daria était partie vivre son deuil prématuré dans une de leurs terres en une morne et lointaine province. 12 mois passèrent sans que Paris, qui ne l'avait qu'entrevue, l'eût oublié. Enfin, le temps de crêpes et de regrets s'étant écoulé, la rentrée en lice avait été superbe. Veuve sans enfant, à 22 ans, après 7 mois de mariage, la belle Daria n'avait pas plus tôt reparu qu'elle était devenue le point de mire de maintes visées. Un peu plus de maturité lui avait déjà donné une vraie maîtrise dans l'art de charmer et de dominer. Aussi la vit-on sans merci recherchée par les plus ambitieux, disputée par les plus hardis. Elle subjuguait d'autant mieux que son espèce d'insolence native, inconsciemment accrue par le prompt succès et la souveraine franchise qu'elle mettait dans la nette expression de ses jolis dédains, avivait et doublait les enthousiasmants, les cinglants. Elle promenait sa grâce voluptueuse comme un défi, ouvrant ses yeux tout grands à tous les rêves, mais gardant toutes les ironies sur ses lèvres de sourieuse, tous les refus hautains dans les moindres gestes de sa volontaire et provocante personne. Spirituelle comme une femme de fermier général au siècle dernier, de cette belle lignée des Doudetot, des d'Épinay, de la Pouplinière, droite et grave comme une héroïne féodale, mais en même temps libre de préjugés comme une nièce d'oncle Sam, elle palpitait des plus intenses modernismes sans perdre une ligne de sa raideur d'âme, sans déroger de son attitude inaccessible, gardant une infrangible confiance en sa force, une simple et fière sûreté de soi, en présence de tous les risques, de toutes les surprises, de tous les pièges ouvrant leurs abîmes sous chacun des pas d'une jeune femme qui va dans la vie, les yeux levés, belle, libre, riche, et décidée à marcher sans guide parmi les convoitises et les malveillances du struggle mondain. D'ailleurs, elle savait n'être pas circonvenue. Elle éludait la trop pressante société des hommes. Phénomène presque unique pour une femme triomphante, elle se faisait peu d'ennemis parmi les femmes et possédait le don de transformer en sympathie affectueuse leurs revêches appréhensions. Elle avait même formé autour d'elle, comme une garde d'honneur fidèle, tout un petit cercle d'amis, jeunes femmes ou jeunes filles, la plupart dominées par son prestige, mais que son tact s'appliquait à faire briller au lieu de les effacer et de les éteindre. Elle les dirigeait, les formait, étant par nature un peu conseilleuse, un peu maman. Son grand ascendant en cette société était dû autant à ses mérites de femme parfaitement supérieure qu'au rare et souverain éclat de sa très haute et très vieille aristocratie de sang et de nom. L'homme dont elle était la veuve, le comte Janin de Camarode, laissait le renom d'un grand seigneur marqué au triple sceau des noblesses du cœur, de l'esprit et de la race. Mais elle-même, née de la branche des Camarodes royennes, était personnellement apparentée à la plupart des grandes familles de France. Le fameux portraitiste Ricard a laissé d'elle une glorieuse image où se retrouve l'élégance absolue de son allure et de son caractère, l'original et subtil charme de sa précieuse et fière petite personne si loyale, si crâne et si bonne. Les dons et les talents de son intelligence souple et libre achevaient l'ensemble parfait de tout ce que peut réaliser de plus exquis la culture d'une haute éducation sur le riche terrain d'une nature de grande élite. Telle elle était lorsque Maurice, voyant sa carrière compromise par l'étalage maladroit de certaines imprudentes opinions politiques, en voyant disgrâce dans un dépôt de petite ville et là de garnisonner stérilement en province, avait démissionné pour venir se remettre à l'air de Paris. Il avait retrouvé Madame de Camarode en pleine agitation mondaine, véritable reine de salon au milieu d'une petite cour attentive et zélée. Mais tout de suite, le baron de Meringis avait pu observer que Daria n'accordait que peu d'attention à ceux-mêmes qui s'affichaient comme ses prétendants déterminés. Ceux-là qui lui faisaient cortège de leurs galantes assiduités ne devaient qu'à leur résignation éprouvée, leur patience insistante et jamais ébranlée, le faible et stérile privilège de se dire ses familiers. Mais leur fatuité seule pouvait en tirer quelques imaginaires avantages. Ce fut donc une très exceptionnelle fortune pour Maurice que d'être considéré par la jolie veuve comme il le fut lorsqu'elle le revit et parut faire toute joyeuse les premiers pas vers lui. Assurément, pour quiconque la connaissait si peu prodigue de telles démonstrations, il apparaissait clairement qu'elle le distinguait d'une très vive estime et voulait le mettre à part du troupeau avant qu'il s'y fût mêlé. Mais le baron ignorait que d'autres eussent payé bien cher un semblable accueil. À peine y avait-il vu quelque chose de plus qu'un simple mouvement de cette sympathie banale que, mondaine accomplie, la comtesse devait prodiguer couramment autant par parisienne habitude que par bonne grâce naturelle. Cependant, lorsqu'il s'était présenté chez elle, elle lui avait témoigné avec une spontanéité brusque et cordiale non seulement qu'il était l'homme qu'elle aurait le plus manifestement plaisir à voir et à recevoir, mais encore qu'elle saisirait volontiers le prétexte de la lointaine parenté qui les alliait vaguement pour accepter qu'il lui servît de chevalier et de sigisbé, alors qu'elle avait formellement interdit à tous autres, aux plus sûrs et aux plus dévoués parmi ses élateurs ordinaires, de jamais aspirer à une telle faveur, ni d'ambitionner ses titres aimables. De son côté, l'attitude de Maurice avait été notoirement ambiguë. En reprenant son rang dans une société où il avait tout droit aux premières places, il s'était, en principe, affirmé comme tout particulièrement acquis à Madame de Camarode. Elle seule semblait avoir eu le don d'attirer et de fixer ses soins. En revanche, il s'en était tenu là, et jamais, depuis, n'avait montré qu'il prétendît à plus. D'ailleurs, la belle comtesse semblait avoir pris le même parti. Comme pour marquer préventivement au baron de Meringis quelles réserves elle faisait et quelles conditions sévères elle mettait à ses abandons et à ses familiarités confiantes, elle avait aussitôt pris le plus grand soin d'afficher son désintéressement sentimental. Enfin, pour l'affirmer mieux encore, elle avait exprimé très publiquement son désir de voir Maurice renoncer au célibat et fait grand étalage du souci qu'elle allait prendre de le mettre dans la bonne voie, c'est-à-dire de le bien marier. Le marier. Avec qui? Oh, pas avec elle, assurément. Et presque du même coup, elle avait d'autorité élu et désigné une jeune fille de son petit groupe d'amis qui conviendrait merveilleusement à l'officier démissionnaire et lui serait une délicieuse fiancée. Mademoiselle Anna Després était en effet une jeune personne admirablement douée sous tout rapport. De nom roturier, elle n'en était pas moins d'origine distinguée, d'une bonne famille bourgeoise à belles alliances. Fortune convenable, intelligence personnelle et brillante, beauté blonde fort intéressante, jolie taille et gracieuse allure, c'était bien la preuve vivante que Madame de Camarode avait le coup d'œil juste, la main heureuse et très bon goût. Sans étonnement, sans réplique ni surpris, ni décontenancé, M. de Meringis n'avait rien laissé deviner de son opinion secrète sur ce que sa belle amie avait si arbitrairement projeté pour lui. Il avait laissé dire et laissé faire, avec l'expression d'une gratitude polie et l'affectation d'un assentiment sans enthousiasme, mais aussi sans réticence. La vérité, c'est qu'en constatant tout d'abord que l'intérêt à lui porté par sa quasi-tutrice n'était que fort amical, le baron Maurice était de premier mouvement un peu piqué. Mais un homme de sang-froid et d'expérience pouvait-il se montrer susceptible de si puérils froissements? Au lieu de protester et de récriminer, dandy impassible et gentleman irréprochable, il avait manifestement accepté de bon cœur le sort qu'on lui préparait. « Vous voulez que je demande la main de Mademoiselle Desprez ?»« Sans doute. »« Eh bien, belle amie, pour ne vous désobéir en rien, je la demanderai. Mais quand ?»« Le plus tôt possible, on vous attend. »« Ce sera fait, cette semaine. » Avait-il espéré que cette soumission si prompte piquerait à son tour la comtesse? Qu'il en fût ainsi ou autrement, les choses ne s'en étaient pas moins passées selon le programme consenti. 8 jours après, Mademoiselle Després et le baron s'étaient vus accordés, complimentés et fiancés. Ce n'avait été pour l'un ni pour l'autre une révélation par coup de foudre, mais il y avait convenance absolue. En outre, autour des deux jeunes gens, tout le monde s'était montré ravi. De main de part, on avait félicité Daria sur sa très heureuse inspiration et c'était à qui surenchérirait pour lui prédire que ce beau couple formé par ses soins serait d'un assortiment délicieux. De ce moment, tout avait été très vite et très bien marché. Trop bien, hélas. Mais pour qui? Pour Daria? Pour Maurice? C'est là un point délicat à fixer et qui eût mérité l'attention de quelque observateur intéressé. Il s'en trouva sans doute. Car dès ce moment, diverses phases de l'attitude réciproque de M. de Meringis et de Mme de Camarode furent curieusement commentées sous le manteau. Quelques points surtout parurent dignes de remarque. Par exemple, s'agissait-il devant Daria, en l'absence de Maurice, de ce projet de mariage qui était toute son œuvre, elle en manifestait toujours la plus vive satisfaction. D'autre part, lorsque quelque ami de club ou de boulevard croyait devoir complimenter le baron sur l'avenir charmant qu'il se ménageait, celui-ci souriait débonnairement en homme qui se sait heureux et veut que nul ne l'ignore. Bien. Mais tout changeait lorsque M. de Meringis et Mme de Camarode se retrouvaient en présence. Une gêne visible et inexplicable pesait sur leur conversation. Surtout, ils évitaient avec grand soin de parler de ses fiançailles. Et lorsque, par hasard, malgré eux, il en était le moins du monde question, leur causerie prenait un ton aigre-doux, se nuançait d'amertume et de mélancolie. Se doutaient-ils l'un et l'autre que cette bizarrerie eût frappé quelque curieux? Non, sans doute. C'était si sensiblement instinctif et machinal qu'eux-mêmes ne semblaient pas s'en être tout d'abord aperçus. Du moins, les façons de la comtesse ne trahirent en rien qu'elle se fût observée. Par contre, le baron, qui, sous des dehors insouciants et légers, cachait un esprit très déductif et très réfléchi, avait été le premier à se rendre compte de la singulière et toute nouvelle manière d'être qui s'était comme imposée à lui chaque fois qu'il faisait visite à son aimable marieuse. Puis, un beau jour, « Vraiment, s'était-il demandé, est-ce que je serais plus contrarié que je ne le crois de me marier par les soins de cette chère comtesse avec une autre personne qu'elle? Alors je ne suis pas en bois, je ne suis pas en bronze, j'ai un cœur, une âme, des sens, comme le plus vulgaire Patito, je ne suis pas un dandy, mon sang n'est pas de glace, et mes nerfs sont susceptibles de vibrer au gré des contrariétés passionnelles. J'ai pourtant pris des leçons de flegme avec les meilleurs professeurs de maintien britannique, et jusqu'à ce jour je m'étais montré digne de mes maîtres. Ai-je eu tort de quitter le régiment? Est-ce simplement l'air de Paris qui ne me vaut rien? Ou bien est-ce que je rajeunis? Voilà bien 10 ans que sur un tel sujet je n'avais éprouvé de trouble comparable à celui qui m'envahit, qui bouscule ma volonté et brouille mes pensées. » Enfin, très inquiet. Tout n'était donc que vanité dans cette prétention que j'avais de bien raisonner et de bien me posséder. Ce serait étrange, mais tel que je me connais surtout, tel que je me vois en ce moment, Il me paraît fort probable qu'il en est ainsi. Cela méritait attention. L'examen n'avait pas été long, et M. de Mérangis n'avait pas tardé à se persuader que les sentiments intimes qu'il nourrissait pour la belle veuve, et qui ne s'étaient jamais traduits que par les marques d'une très respectueuse affection, étaient bel et bien de l'amour. Cette conviction acquise, il restait à savoir si la comtesse de Camarode était de son côté très éloignée d'un état passionnel analogue, et si tout en se flattant comme il l'avait fait lui-même, d'être une amie et rien qu'une amie, elle n'était pas aussi, à son insu, victime d'une illusion naïve. Certes, il l'aimait, mais ne l'aimait-elle pas aussi? Il fallait approfondir. Il approfondit. Et si ses nouvelles observations ne lui fournirent cette fois rien d'absolument affirmatif, du moins il n'en sortit rien de négatif. Alors, dans sa hâte de conclure à l'avantage de ses vœux, il prit sur lui de ne plus douter et de voir dorénavant dans l'attitude de la comtesse tout ce qui lui plaisait d'y voir. Mais alors, si vraiment Daria s'était ainsi secrètement éprise, pourquoi ces manigances ? Que par suite de son aveuglement à lui, tous deux se soient trouvés victimes d'une fatale mésentente ? Soit. Il aurait dû, lui, homme, comprendre le premier et agir. Il ne l'avait pas fait. Fort bien. Daria ne pouvait décemment se déclarer, alors qu'il ne s'était pas déclaré le premier. Et il n'aurait eu qu'à porter la peine et le deuil de ce bonheur manqué. Incomprise par un homme qui ne se comprenait pas lui-même, le rôle de Daria aurait été, logiquement, tout tracé. Elle devait rester sur sa réserve, se taire et guérir ou souffrir en honnête femme. Mais pourquoi avait-elle outré cette réserve? L'avait-elle jamais aidée à s'analyser, à se confesser, à voir clair dans ses sens et dans son âme? L'avait-elle, du moindre mot, de la moindre allusion, soutenue, encouragée, attirée? Il se souvenait bien de s'être constamment heurté à la plus rigoureuse froideur. Il se souvenait bien que l'attitude de Daria avait toujours été, vis-à-vis de lui, celle d'une femme à qui l'on ne fait pas la cour. Et depuis ? Depuis, elle lui avait cherché une fiancée, et non point la première venue, mais une jeune fille de valeur, très rare et très désirable, et qu'eût adoré tout autre qui n'eût pas eu le cœur pris. Alors vraiment, c'était en dépit de toute logique. Avait-elle été folle, ou le voulait-elle rendre fou ? Sur cette pente, il n'avait plus qu'à se laisser glisser pour arriver très vite à des conclusions souriantes. Son fin parisianisme, son fond d'expérience un peu sceptique, un peu perverse, l'aidait même singulièrement à se pousser de conjecture en conjecture jusqu'aux plus étranges hypothèses. Celle-ci par exemple. Puisque Daria me fait marier, c'est qu'elle ne veut pas, elle, se marier. D'où il déduisait, tout naturellement, puisque Daria, après avoir manifestement souhaité mon mariage, s'attriste visiblement au moment où ce mariage va se conclure, c'est que la façon dont je parais vouloir me marier ne répond pas à ce qu'elle attendait de moi. Puis, subséquemment, puisque Daria veut rester veuve et libre, puisqu'elle veut me voir engagée ailleurs et mariée, et puisque, sans l'ombre d'une fatuité, je sens très bien que je suis très près de son cœur, alors c'est qu'évidemment Daria veut de moi quelque chose qui soit hors du mariage. Bon, bon, cela peut devenir charmant. Ce qu'elle voudra que je sois, quand nous nous serons expliqués, je le serai discrètement, hypocritement, sourdement. Ce n'est peut-être pas tout à fait ce que j'aurais choisi et préféré, mais notre monde est bizarre et ses bizarres lois suscitent de bizarres comédies. Sans doute, cette façon de voir était la moins admissible. Elle lui parut la plus normale. Il s'arrêta, résolu à s'y conformer au plus tôt. Il avait donc, dès ce moment, donné des directions nouvelles à ses batteries. Et d'abord, tout en gardant sa bonne tenue de zélé fiancé devant Mademoiselle Després, il avait étudié les moyens pratiques de tripler la fréquence de ses visites chez Madame de Camarode. Plus de contraintes, plus de gêne quand il la voyait maintenant. Ce qu'il fallait, c'était lui faire comprendre qu'il l'avait comprise et amener au plus tôt l'occasion d'une entente à mi-mot, de laquelle il put s'autoriser ensuite. Quelques attaques assez directes avaient appelé des réponses qui pourtant n'étaient pas venues. Cependant, sa belle confiance lui avait permis de lire dans ce qu'il considérait comme le jeu très subtil de la comtesse certaines indications qui lui avaient tracé sa conduite et l'encouragement à ne plus tarder. À la veille de tenter son premier grand coup d'audace, il avait passé une nuit blanche chez lui à méditer son plan d'assaut, à peser tous les termes de la déclaration à la fois symbolique et précise dans laquelle il devait s'exprimer à Daria, qu'elle était devinée selon ses vœux et qu'elle serait aimée avec tout le mystère voulu. À force de combiner ce discours, il en avait fait un pur chef-d'œuvre de sous-entendus délicats, de métaphores ingénieuses et d'ensorceleuses déductions. Puis le grand jour venu, il était allé cyniquement se faire la main chez sa fiancée à laquelle il avait nerveusement débité toutes les fadeurs de circonstances. Sur quoi, très satisfait de sa souplesse donjuanesque, il s'était fait conduire tout droit au thé de la comtesse. Il l'avait trouvée seule, chez elle, ne l'attendant guère et plutôt surprise de cette visite. Mais ce n'était pas pour l'arrêter. Dans sa fièvre d'agir, dans sa certitude d'être approuvé, il avait sauté tout préambule. Sans prendre un temps, tout d'une haleine, il avait alors, sans omettre un mot, sans manquer un effet, récité la chaude et jolie tirade si savamment préméditée et composée, si bien apprise et si bien sue. Mais tout emballé qu'il fût, il n'avait pu aller jusqu'au bout. Les grands yeux fixes de la comtesse avaient coupé net son élan. La première marque que lui avait donnée Madame de Camarode, c'est qu'elle n'avait pu le suivre, ne comprenant rien à sa confuse rhétorique. Puis elle lui avait demandé si ce qu'il lui débitait était une œuvre littéraire de sa composition ou simplement une page de style coupée par lui dans quelqu'une de ses revues décadentes à la mode chez les snobs. Enfin, que ce fût ceci ou cela, elle lui avait témoigné que ce genre de littérature n'était pas celui de son goût et son désir de n'en pas entendre davantage. Maurice l'avait contemplé muet, douloureusement interdit. Et quoi ? Était-elle donc si coquette qu'elle voulait le soumettre encore à des jeux plus compliqués? Serait-ce le prologue d'un éternel supplice? Enfin, résolu à toutes les docilités, et comme elle lui avait demandé de lui parler d'autre chose, il lui avait parlé d'autre chose. Lorsqu'ils s'étaient séparés ce jour-là, Maurice n'avait pas fait un pas de plus sur ce terrain où pourtant il avait présagé que la voie nouvelle, si méphistophéliquement découverte par lui, le mènerait du premier coup droit au but. Mais il s'était juré de persévérer, et dès le lendemain, avec des formes nouvelles mais identiques, il avait réitéré. Hélas, cette suite de visites n'avait servi qu'à lui faire enfin exprimer par son ami que, bien qu'elle se fût toujours plu en sa société, leur habitude n'était pas de se voir aussi assidûment, et qu'elle préférait, rien ne justifiant une telle fréquence, que Maurice se conforma au passé et désormais ne la vint visiter ni plus ni moins souvent qu'autrefois. C'était le feu mis aux poudres. Du coup, le baron de Mérangis avait éclaté. Il s'était emporté en belles indignations, protestant violemment contre la cruauté puérile des femmes, peignant la sincérité de son ardeur en traits exaspérés, brûlant ses vaisseaux, mettant toute la flamme de ses sens dans un flux de paroles vibrantes qu'il la forçait à écouter, en jurant que sa vie se jouait sur ce nouveau caprice de la belle comtesse. Bref, il avait enfreint toute tactique, rompu toute réserve et oublié d'emblée la sage leçon qu'il s'était faite. Cette fois, elle avait tout entendu, tout subi, avec une impassibilité implacable et seulement un peu plus rose, à mesure que l'orageuse éloquence du baron lui avait plus vivement fouetté les oreilles. Apparemment, elle s'était fait une loi d'user de quelque indulgence envers cette surprenante exaltation. Elle n'avait donc pas congédié trop durement le pauvre fiévreux. Ce fut même avec quelques ménagements miséricordieux qu'elle le pria de faire diversion à de pareilles inconvenances, de se retirer et de ne plus paraître jusqu'à ce qu'elle-même l'y conviât. Pourtant, si doucement que ce fût exprimé, ce n'en avait pas moins été très fermement dit. Maurice avait dû battre en retraite, sans espoir de retour. Le soir même, ce définitif congé lui avait été confirmé par un laconique mais très explicite billet de Madame de Camarode, lui signifiant qu'il l'avait absolument offensée et qu'elle ne saurait pardonner. « Je veux bien, dit-elle en concluant, admettre qu'il y ait eu un peu de folie subite dans votre triste cas, mais en ces matières, la folie ne fut jamais une excuse. Elle ne peut au contraire compter que comme un ridicule, aggravant la lourdeur des insultes au lieu d'en atténuer la portée. Enfin, cette circonstance que votre incroyable explosion sentimentale coïncide sans vergogne avec le moment où vos fiançailles avec Mademoiselle Després sont un fait accompli et où vous devriez honnêtement vous considérer comme ayant aliéné votre liberté, n'est pas votre seule erreur en tout ceci, mais c'est indiscutablement la plus injurieuse pour moi. » Le soufflet était donné et bien donné un de ces soufflets qui font empreinte et que l'on garde. Loin de considérer froidement les choses en beau joueur malheureux mais impassible, Maurice, revenu de son emportement, très démonté et très honteux, avait senti qu'il se porterait à quelque extrémité terrible s'il ne trouvait pas sur le champ quelque fort dérivatif à sa peine, remède souvent pire que le mal, mais dont il éprouvait l'impérieux besoin. Sa fiancée, quelle détresse! Enfermé chez lui depuis 2 jours pour ruminer sa rage jusqu'à complète absorption, il avait songé très sérieusement à cette jeune fille qu'il s'était efforcé à trouver très touchante et vraiment attirante. Or, le matin du 3e jour, un ami commun de sa famille et de la famille des Prés l'était venu voir. Ce personnage grave et prestigieux l'avait tout de suite impressionné funèbrement. Ce sont là des airs qui ne trompent point. En effet, après un pénible préambule, le visiteur s'était décidé à révéler à Maurice que Paris étant une ville où tout se sait, nul n'ignorait maintenant dans leur monde que depuis quelque temps le baron négligeait Mademoiselle Anna pour une amourette malencontreuse. Très rigide, la famille des Prés n'avait pu tolérer cela. Que ce fût ou non un pur racontard, il n'en était pas moins résulté un peu de scandale, et c'était assez pour qu'on demandât urgemment au baron de rompre tout engagement, alors qu'il en était encore temps. L'important messager avait en outre cru devoir user des titres que lui donnaient son âge et son caractère pour agrémenter sa mission de quelques mornes considérations. « Et quoi, mon pauvre enfant » avait-il doucement grondé avec une voix contenue de confesseur. « Non content de traîner derrière vous un passé lourd et déplorable d'écarts et d'aventures, non content de vous être fait la triste réputation d'un ancien viveur et d'avoir peut-être encore un reliquat de maîtres indignes, voilà que vous commettez l'imprudence inouïe de vous préparer et de vous assurer de nouvelles relations pour l'avenir. » Sur quoi Maurice s'est élevé. « Pardon, monsieur, voici votre canne et votre chapeau, veuillez filer. » Et poussant le fâcheux dehors, il lui avait claqué la porte sur le dos. N'était-ce pas le comble? Rupture avant la lettre, rupture sur toute la ligne. Mais cette fois, il y avait eu détente. Et voilà comment et pourquoi, le cœur et l'esprit démontés par ces 2 chocs simultanés, Maurice de Meurangis, pliant subitement bagage, s'était réfugié dans cette jolie ville de Beauvais pour y trouver une retraite qui lui permit à la longue de se refaire le sang et la raison. Voilà comment, partageant dès lors son temps entre ses promenades agrestes ou sportives et ses ternes et modestes relations de cercle et de salon provinciaux, il avait fini par trouver en 4 mois le moyen de presque oublier et de se croire presque consolé. Doué malgré tout d'une heureuse complexion et d'un riche fond de belle humeur, il était en somme gaillard à prendre le dessus sur de tels ébranlements. Grâce à cette cure d'isolement et de plein air, la guérison de sa double blessure avait fait en effet des progrès sensibles et rapides. Déjà fier de lui, content de sa résistance, ravi de sa force et presque mûr pour jouir d'une sérénité robuste, le baron de Meurangis, faisant un retour sur lui-même, s'était contemplé avec satisfaction et pris d'une belle estime pour son propre tempérament. Or, c'est au moment où, triomphant de l'épreuve, il allait rayer le passé et ne plus envisager que l'avenir dont les horizons éclairés promettaient de lui rouvrir leur rose perspective de renouveau et de regain, c'est dans l'instant même où il supputait agréablement combien il lui restait de belles années à couler sur terre, oui, c'est précisément dans ce temps qu'était survenue la catastrophe révulsive après laquelle il avait dû constater navré que cette prétendue guérison n'était qu'un leurre, son empire sur lui-même une chimère, et sa foi dans sa vaillance morale la plus folle des illusions. Suffisamment édifié, nous le retrouvons tel que nous l'avons laissé, dans l'attitude d'un songeur réveillé par la suprême secousse d'un cauchemar hallucinant, à 7 minutes d'angoisse, où le coup de théâtre machiné et exécuté par Madame de Camarode en personne était venu couper court aux démonstrations conciliatrices des témoins de M. de Belleroy. Après avoir constaté que la comtesse était, comme par magie, évadée de l'alcôve où elle s'était enfermée sans qu'il pût savoir quand ni comment, puis, après avoir, de son mieux, repris ses esprits, son premier soin avait été de se renseigner. Il avait interrogé les gens de la maison. Mais aucun d'eux n'ayant été mêlé au complot, et Gracienne s'étant soigneusement dérobée à tout interrogatoire, personne n'avait paru même comprendre ce qu'il voulait dire. Il lui avait donc fallu, bon gré mal gré, remettre à plus tard l'éclaircissement de ce double mystère de l'apparition et de la disparition. En revanche, quelque chose subsistait de tout ceci qui se trouvait indiscutablement établi, avéré, prouvé et archiprouvé. Et ce fait d'une réalité indéniable, c'était qu'il n'avait cessé d'aimer Madame de Camarode, qu'il n'avait jamais aimé qu'elle, que l'éloignement et la solitude avaient pu provisoirement lui donner le change sur la persistance latente de cette passion, mais aussi que la seule idée que la comtesse, n'étant pas sa femme, pouvait devenir celle d'un autre, était faite pour soulever en lui toutes les tempêtes de la colère jalouse ou l'abîmer dans la plus mortelle prostration. Maintenant son sang battait, une fièvre le secouait de frissons, autant de pensées, autant d'angoisses se choquaient sous son front. Puis, dans le désordre des conjectures, une résolution s'imposa. Il fallait s'enquérir de ce domaine des Glandiers qu'on lui avait nommé comme étant une propriété acquise depuis peu par la comtesse aux environs de Beauvais. C'est là, certainement, qu'elle s'était retirée après son équipée, c'est là qu'il la retrouverait. Il avait droit à une explication, il l'aurait. Et, de quelque nature qu'elle fût, il saurait bien si c'était par intérêt pour M. de Bellerois ou pour lui que cette étrange femme avait joué cette étrange comédie. Or, tandis qu'il s'habillait pour y courir, Gracienne parut et lui présenta deux lettres que l'on venait d'apporter à son adresse de deux parts différentes. La première qu'il ouvrit et lut était des deux témoins. Il disait « Monsieur le baron, nous sortons de chez Monsieur de Bellerois, auquel nous avons rendu compte de notre mission, sans omettre l'incident qui nous a paru devoir y mettre fin. En effet, et selon les prévisions dont nous vous avions fait part, notre ami nous a simplement chargé de vous déclarer qu'il regrettait infiniment de nous avoir, vous d'une part et nous de l'autre, dérangés pour une affaire qui ne pouvait et ne devait avoir aucune suite. Est-il besoin d'ajouter, monsieur le baron, que tout ceci se passe entre galantes gens? Monsieur de Bellerois vous prie en outre par notre entremise de l'excuser auprès de l'aimable personne qui s'est si crânement moquée de lui. Il l'assure que le secret de cette singulière petite aventure sera bien gardé par lui et par nous. Enfin, et c'est son dernier mot, il souhaite que personne plus que lui ne mette désormais la moindre entrave à un bonheur qui reste vôtre après avoir failli être sien. Veuillez agréer, monsieur le baron, l'expression de nos sentiments très distingués, Paul Serret, capitaine de Lochère. C'était en somme courtois et de bonne guerre. Maurice ne pouvait, si mal disposé qu'il fût, ne pas accorder que M. de Bellerois, s'il parlait sincèrement, avait bien pris les choses et se comportait en franc chevalier, ferme devant la mauvaise fortune. Mais tant de vicissitudes n'étaient pas faites pour inspirer toute confiance. Il est certain que dans tout cela il y avait un fond d'intrigue et que l'on se moquait de quelqu'un. Or, rien ne prouvait encore au baron que ce ne fût pas de lui. Il ouvrit et lut la seconde lettre. Elle était de Madame de Camarode et disait ceci. « Mon cher ami, ma nouvelle femme de chambre Gracienne, qui vous remettra ce mot, vous dira comment, par ses soins, j'ai pu ce matin m'introduire dans l'alcôve de votre petit salon, pendant votre absence, m'y enfermer, m'y déguiser en négligé d'appartement, assister derrière la cloison à votre belliqueux entretien, puis me montrer soudain à vos yeux éblouis ainsi qu'à ceux des personnes qui conversaient avec vous. » Elle vous dira également qu'après avoir battu en retraite sur mon coup de théâtre, et m'être à nouveau enfermé, j'ai pu reprendre mes effets de ville, m'enfuir par une petite fenêtre et, guidé par elle, me retrouver dehors sans avoir été vu par personne et avant que l'idée vous soit venue à vous-même de forcer la porte de l'alcôve. Mais ce que Gracienne ne saurait vous dire, c'est tout le reste. Sur cela, moi seul peux vous renseigner, et m'y voici prête. Et voulez-vous que tout de suite j'aille au fait capital? Oui, écoutez-moi donc. « Ami Maurice, nous nous aimons tous deux, depuis très longtemps, depuis presque toujours, mais comme deux êtres pleins d'étranges pudeurs réciproques, et qui n'ont jamais osé jouer carte sur table. Enfants, nous étions déjà l'un à l'autre, par la pensée. Voyons, puisque j'avoue, avouez. Plus tard, n'est-ce pas, nous nous sommes mieux aimés encore, et jamais vous ne me l'avez dit, et jamais je ne vous l'ai dit. Puis, fait très grave, vous m'avez fui. Pourquoi? Alors je me suis marié à un autre. Pourquoi ? Plus tard encore, nous nous sommes retrouvés, moi veuve et libre, vous repu d'aventure et blasé sur toute romance. M'avez-vous remarqué que vous avez souffert de mon mariage, consenti et conclu en votre absence ? Vous ai-je dit que j'eusse déploré qu'une fatalité m'eût forcé à cette union ? Point. Vraiment, nous aimions-nous donc encore ? Plus que jamais, le premier mouvement de franchise venant de l'un ou de l'autre eût tout arrangé. Hélas, toute votre habileté s'employa à me montrer que vous aviez beaucoup de sympathie pour ma personne et beaucoup de goût pour ma conversation, mes talents de bonne musicienne et l'esprit de mes toilettes. Et toute mon adresse à moi s'évertua à vous prouver que vous méritiez de plaire et à vous fiancer avec une jeune fille charmante. Voilà, de part et d'autre, de la belle finesse. Qu'en pensez-vous ? Mais ce n'est pas tout. Pour couronner ce magistral édifice de diplomatie, n'avez-vous pas eu la belle et heureuse pensée, à la veille de votre mariage, de faire la plus surprenante pirouette, la plus abracadabrante volte-face, de pénétrer chez moi comme en un tournoi, visière baissée et lance au poing, armé pour le duel et la conquête, de me déclarer soudain votre irrémissible passion ? Bref, d'entreprendre de me faire votre maîtresse au moment où vous épousiez une de mes amies. Comme tout cela était bien de gens d'esprit et de cœur, hein ? Naturellement, je vous ai mis à la porte. Conséquence, votre mariage s'est rompu et vous vous êtes exilé. Qu'ai-je fait alors, moi ? Je ne voulais plus vous revoir. Et je me suis aussitôt avisé d'acheter une propriété toute proche de l'endroit où vous aviez fixé votre retraite. Me voilà, je crois, et d'emblée, à votre niveau de logique. Pourquoi fais-je cela ? Vous haïssais-je tellement que je voulusse vous tenir à portée de ma vengeance ? Ou bien mon mépris pour vous capitulait-il devant l'impérieux désir de vous retrouver ? Ne me le demandez pas. Quoi qu'il en fût, le hasard tant sollicité ne seconda pas mes desseins. Jamais nous ne nous rencontrâmes. Vous ne me saviez même pas si près de vous. Alors ce fut mon tour d'être habile à votre manière. J'agréai les hommages d'un fat de petite ville. Je laissai publier que, loin de m'importuner, M. de Belleroy serait bientôt mon seigneur et maître. Or, ami Maurice, il était écrit que les choses parvenues à ce terme n'iraient pas plus loin. Notre mauvaise étoile ne pouvait se moquer de nous plus longtemps. D'un seul coup, tout a changé. Pour la première fois, vous avez joué franc jeu, à découvert, bravement. Publiquement, vous avez manifesté que l'idée que j'allais devenir la femme d'un autre vous était intolérable. Vous avez, devant la galerie, tiré votre épée, prêt à vaincre ou à mourir pour vos sentiments. Eh bien, ce que vous avez fait là, ne riez pas. C'était peu de chose, sans doute. Encore était-ce assez discret, assez enveloppé pour qu'il fallût que toute ma bonne volonté se dépensât à lire ce qu'il fallait lire sous votre attitude. Mais puisque j'ai vu clair, puisque j'ai compris et puisque je vous l'écris, c'est que nous sommes, espérons-le, sauvés. C'était tout ce que j'attendais depuis 12 ans. Et j'ai fait mes preuves à mon tour. Le coup aventureux que j'ai risqué ce matin n'avait d'autre but que de vous répondre du tac au tac et en quelque sorte vous récompenser en m'affirmant subitement vôtre devant 2 badauds stupéfaits, devant 2 témoins venus pour toute autre constatation. J'ai dit, usez-en comme il vous plaira. À ma façon, je fus chevaleresque. C'est à vous maintenant d'en être touché si votre cœur ne veut pas se démentir. M'en savez-vous gré ? Eh bien, venez donc me le dire. Je vous attendrai tous aujourd'hui. Venez. Daria de Camarode. Château des Glandiers, près Beauvais, route de Clermont. On pense bien que le baron de Meringis, après lecture et relecture de cette chère lettre, ne perdit pas son temps à solliciter de Gratienne un complément d'information. Une heure après, il sonnait à la grille des Glandiers. Daria l'attendait dans la grande allée du parc et vint au-devant de lui. Ils se sourirent, émus, rougissant comme 2 enfants. Elle lui prit le bras et ils marchèrent quelques pas, sans se parler. « Ainsi, dit enfin Maurice, il fallait jouer carte sur table, et vous seriez déjà baronne de Meringis, et vous n'auriez pas gâché inutilement tant de beaux atouts. Mais, puisqu'il m'en reste un et le meilleur, jouez-le donc. » Monsieur de Meringis, éperdu d'amour et de joie, s'inclina pour baiser la belle main que Madame de Camarode portait à ses lèvres. Ainsi s'achève, carte sur table, de Camille de Sainte-Croix.